Ouais, c'est ça.
Mais moi aussi, j'ai tout le temps le goût de chanter Ice Baby.
Ah oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ah oui, c'est ça, c'est que vous mettez toujours la barre un peu plus basse, mais à ce niveau-là, pour moi, la barre est haute. Il faut que j'atteigne la barre basse.
T'es en bas de la basse?
Ben, il faut que je me rende à la barre basse.
Non, c'est sûr, mais c'est parce que t'es en bas?
Ben, d'en haut ou d'en bas, peu importe.
Ah ouais, je comprends.
Même si c'est bas, c'est des standards.
C'est ça.
Tu sais? En tout cas,
ça fait pas longtemps qu'on le sait, hein,
que tu conserves les standards.
Mmh. C'est ça. Ben, puis c'est pas donné à tous.
Non, c'est pas facile.
Non, c'est.
Ça a l'air de rien comme ça, là.
Hey, j'arrive une demi-heure à la fin.
C'est déjà une demi-heure de plus. Tantôt,
j'ai toussé, j'ai fermé mon micro.
C'est ça. T'as pas les habitudes.
J'accumule les erreurs.
T'arrives beaucoup trop tôt, premièrement.
C'est ça. Tantôt, j'ai achoumé le micro fermé dans mon coude.
Ouais.
Ça marche pas, là.
Achoumé.
Happy de choumé, excuse.
Oui.
Ouais.
On va t'enlever ta mention d'honneur.
Oui, alors ici, une tradition, par exemple, que je peux respecter, c'est de faire un segment de nouvelles à peu près un heure et quart.
Ça a changé, ça?
Oui, je sais que ça a changé.
Récemment, il y a eu des modifications.
Hey, Ray.
Non, mais ça a l'air de rien, hein, ce show-là.
Il est en vacances pendant une semaine. Tu penses-tu que les bonnes habitudes vont tenir pour vrai au retour?
J'ai aucune idée. La dernière semaine qu'on a faite,
la dernière semaine, on a
eu
des
changements.
On était mieux.
Race, il y a bien une certitude qu'on peut avoir avec cette émission-là. Corrige-moi si je me trompe. C'est qu'on peut pas avoir de certitude.
Il n'y en a pas beaucoup.
Qu'est-ce qui va arriver au retour?
La seule chose qu'on sait, c'est que ça commence à 6 heures. Ben, 6 heures et quelques.
Oui.
Puis ça finit à 10. Entre les deux,
la voie n'est pas tracée.
Quoi, quand ça finissait à 9h30 jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça? Ou à l'hiver passé, ça finissait à 9h30, puis c'est 10. Oui. Il n'y en a pas bien des certitudes, à part que le prochain segment sera un segment des nouvelles avec Queen P. Qu'est-ce que t'as pour nous aujourd'hui, Queen P?
Bien des choses dans l'actualité. Je commence avec quand même une nouvelle importante. Il y a le rapport sur l'exploitation sexuelle des mineurs qui sera déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un rapport fort attendu. 11h30, c'est l'heure à laquelle on le déposera. Radio-Canada a rapporté que la commission spéciale va formuler 58 recommandations dans son rapport. Et des 58 recommandations, ben on recommande de les appliquer au complet.
C'est une bonne recommandation.
Oui.
Ça aurait été drôle qu'ils fassent des recommandations qu'ils recommandent de ne pas appliquer, en tout cas.
Non, mais c'est parce que souvent, tu vas aller en appliquer peut-être 10, 12, tu vas prendre ce que tu souhaites prendre.
Mm-hmm.
Sauf qu'eux considèrent que dans la crise actuelle qu'on vit par rapport à l'exploitation des mineurs au Québec, qui est la plaque tournante quand même, c'est pas le fun à dire. C'est vraiment pas une belle phrase dans mon bulletin, mais c'est gênant. Les 58 recommandations doivent être appliquées selon eux. Et c'est la vice-présidente de la députée libérale, Christine Saint-Pierre, qui veut que les tribunaux soient plus sévères envers les clients et la prostitution juvénile. Si on veut que ça change, il va falloir justement regarder ces 58 recommandations-là et les appliquer. Certaines d'entre elles risquent aussi d'être interreliées. Hein? Si tu en appliques une, l'autre, faut qu'elle suive. Alors ça, ce sera à surveiller. Et dans le dossier, je me suis dit, c'est une bonne idée de mettre cette nouvelle-là juste après. Marc Boulanger, c'est un client de prostituée adolescente qui a plaidé coupable hier au Palais de justice de Québec. Boulanger avait été dénoncé en février 2018 par une agence d'escorte. Je vous explique. Il avait appelé l'agence, il voulait obtenir des services sexuels d'une mineure et il le disait, qu'il voulait des jeunes filles, plus jeunes possible. Disponibilité d'adolescentes âgées de 12 ou 13 ans, c'est ce qu'il mentionnait à l'agence d'escorte. L'homme de Shannon utilisait son adresse courriel qui portait son nom. Il s'informait sur justement ces informations-là. Et Radio-Canada mentionne que l'agence d'escorte a signalé à la police de Québec Boulanger. Et là, on l'a identifié comme suspect rapidement. Il y a eu une enquête qui s'est enclenchée et on a décidé de, malheureusement, lui tendre un piège. Alors, malheureusement pour lui, heureusement pour nous, on s'entend. Ce qui s'est passé, c'est que là, les enquêteurs sont entrés en contact avec l'homme de 61 ans. Et toujours, l'homme de 61 ans a dit qu'il voulait rencontrer des escortes de moins de 20 ans. Il spécifiait toujours le plus jeune possible pour celle avec qui il voulait avoir des relations sexuelles. La fausse agence, qui sont les policiers, l'informe qu'il va falloir payer plus cher pour des mineurs. Et à chaque fois, Boulanger rétorque que c'est pas un problème, il va payer plus cher. Alors, les discussions portent sur des adolescentes âgées de 13 à 15 ans. Il y a un rendez-vous qui est fixé dans un hôtel de Québec et ça, c'est en septembre. Sur les lieux, il y a un agent d'infiltration. Lui, il joue le rôle du proxénète. Il attend le client. Marc Boulanger arrive, remet 100 $ au faux proxénète. Il donne aussi, en fait, des informations et le proxénète lui donne une carte d'accès d'une chambre au deuxième étage. Là, le résident de Shannon, il sera arrêté avant d'entrer dans la dite chambre. Son avocat, écoutez bien ça, son avocat a tenu à spécifier que son client avait décidé de pas se rendre dans la chambre et qu'il se dirigeait plutôt vers la sortie parce qu'il avait des craintes de faire affaire avec le crime organisé et non parce qu'il avait changé d'avis sur son comportement. Alors ça, ça a été spécifié hier.
Mmh. J'ai des remords, je pense que c'est des bandits.
Je pensais faire affaire avec le crime organisé. Alors, Marc Boulanger doit revenir au tribunal en février. Là, ça sera la détermination de sa peine. Il est passible d'un minimum de 6 mois d'emprisonnement. Alors, deux nouvelles quand même interreliées.
Je vous ai-tu compté le documentaire Choc français que j'ai regardé sur les...
Hortense.
La prostitution. Hortense, non, oui. Pas Hortense. D'ailleurs, j'en ai un autre pour vous autres aujourd'hui. C'est le monsieur amnésique. Mais non, c'est qu'il explique... moi, je trouve ça vraiment hot, par exemple, ces reportages-là, parce que je fais des logs de documentaires Choc. Mais lui, eux autres, c'est Choc parce que les policiers ont des caméras corporelles. Puis ils
sur eux, vraiment?
Oui, puis les équipes de tournage ont accès à tout. Les interrogatoires, les dépositions des gens qui portent plainte, les interventions policières, quand ils partent dans des cités aller essayer de se battre contre les dealers de drogue, puis qui défoncent des portes, qui rentrent chez le monde, il y a des équipes de tournage qui les suivent. C'est bon, certains vont dire sensationnaliste, mais moi je trouve ça le fun parce que ça te donne accès à ça, puis t'apprends des affaires, même si c'est présenté avec une toune un peu hot, puis une voix off qui dit « Aujourd'hui, les policiers se rendent. »
Il y a une émission, c'est mardi soir qu'on a écouté ça, c'est une émission qui suit des corps policiers sur des appels de 911. Là.
Oui.
C'est à Québec, c'est au Québec, Québec, ça.
C'est SQ.
SQ,
ça t'as SQ puis 911.
C'est peut-être
911. Qui jouait à VTL avec, ça devient nouveau.
C'est un peu ça. C'est un peu ça qu'ils font.
Oui.
Mais c'est moins hard de, peut-être que tes affaires.
Ouais. Encore plus, ouais, c'est ça. Mais c'est un peu le même principe, là. Mais celui que j'avais aimé, puis à quoi ça me fait penser, c'est des gars, des enquêteurs de police, là, qui font de la filature puis qui surveillent le travail d'une prostituée puis son proxénète. Mais ces gens escortent. Le stratagème, il est vraiment hot. Comment il fonctionne, c'est que ils s'inscrivent sur des sites d'échangistes. Et puis, donc les clients pensent faire affaire avec des échangistes. Eux autres, ils appellent ça des libertins.
Des gens majeurs qui ont envie d'avoir une relation sexuelle avec un autre
couple,
par exemple.
Et ça, c'est légal. Puis c'est écrit, nous sommes un couple. Et
tout le monde est d'accord, tout le monde est au courant de ce qui se passe.
Sur c'est comme des forums. C'est vraiment, tout est légal. Puis quand le monsieur qui s'est inscrit sur le site arrive puis il veut coucher avec la madame, ben il rencontre l'autre monsieur, puis l'autre monsieur qui est pas vraiment son mari mais qui est un proxénète, il dit regardez la chambre d'hôtel ça a coûté mettons 100 €, voulez-vous payer la moitié avec nous parce que nous on veut pas vraiment payer la totalité de la chambre, fait que là ben le monsieur échangiste, il fait « Ah ben oui, regardez, je vais aller au guichet, il donne 50 €. » Après ça ben il monte dans la chambre, il couche avec la madame, puis il s'en va. Puis après ça, ils refont la même affaire avec un deuxième, puis un troisième, puis après 5-6 rendez-vous dans la journée. Puis tu comprends? Puis à chaque fois, la moitié de la chambre, la moitié de la chambre. Fait que ça fait 50 €, 50 €, 50 €. Donc, c'est de la prostitution. C'est pas des échangistes. Puis le gars, le client, tu sais, c'est quand même futé.
Mais ils sont
là.
Tous majeurs, là.
Oui,
c'est de la prostitution, mais ils sont tous majeurs.
Oui, c'est pas des prostitutions juvéniles. Mais quand même, la prostitution en France est interdite. Puis le monsieur. Puis pourquoi ils savent, dans le fond, pourquoi il y a des policiers qui les surveillent, c'est qu'il y a un client qui a appelé la police pour dire il y a quelque chose de pas normal. Je me suis inscrit sur un site d'échangiste, mais c'était pas des échangistes parce que là, le monsieur, finalement, était pas là dans l'acte. T'sais, il était
pas
dans la chambre avec les autres. Puis quand je suis parti, la madame m'a dit qu'il fallait que je m'en aille parce qu'elle avait un autre rendez-vous.
C'est plus ça.
Puis là, ben, j'ai croisé un autre monsieur qui allait la rencontrer. Il me semble que ça fait pas très échangiste, checker ça. Mais il a fallu que quelqu'un le dise parce que sinon, eux autres, leur stratagème, il marchait, là, numéro un.
Protocole sanitaire, hey, tout le kit, il faudrait que tu respectes ça.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est futé quand même. Il y a quelque chose de. Même si c'est pas correct, là.
Non.
Il y a quelque chose de brillant quand même là-dedans. Puis là, ben, tu vois les policiers qui se parquent sur le haut d'une butte pour avoir une bonne vue plongeante sur le stationnement. Puis après ça, t'en as un autre avec les petits écouteurs, les petites oreillettes qui est dans sa à manger du McDonald's, puis ben, c'est un autre fast-food, mais OK, oui, j'ai le visuel, c'était le madame. Puis, tu sais, c'est quasiment pas là, les journaux avec les deux trous dedans pour checker à travers, là, comme on voyait dans les vues. Là. Mais bref, je trouve ça bien hot de pouvoir avoir ce type d'image-là, puis d'informations-là aussi sur la façon de travailler. C'est bien intéressant.
Première ligne, ton émission, Ray, ça se peut-tu?
Pas ça,
OK, vraiment ça aucun. Okay,
c'est déjà je connais ça cette semaine. Ça doit être bon.
C'est pas pire. Il se promène là, avec les corps de police, puis... Travailler au 911, c'est un job en battant, ça. Hein?
Hey. Même répartition, là, tu
vois. Oui, c'est ça. Tu sais jamais ce qui s'en vient, le téléphone qui arrive. Tu sais jamais ça va être quoi. Là.
Il va y avoir une autre émission avec les chiens d'assistance aussi. Ils sont en grosse publicité pour ça. Là.
Le nombre de Thérèse qui appelle parce que...
Au 911.
Oh, Tu sais, puis il faut quand même la foi que
ben, la foi que sonnette, faut que tu réagisses, t'as 5 secondes, pas plus, là, même pas. Là.
Puis qu'il faut que tu le crois.
Faut que tu sois allumé.
Tu sais, moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais fait un reportage quand j'étais encore journaliste avec Myriam. Il y a un monsieur qui nous avait appelé, tu sais, je ne peux pas dire n'importe quoi, le 15 mars 2017, qu'il y avait eu une tempête épouvantable, puis que tout était fermé, puis il était tombé là, de la neige là, en fou. Puis bon, il y a un monsieur qui nous appelle à un moment donné, puis il dit « Hey là, ma fille est restée prise dans tempête pour 911, il nous a envoyé chier. » Puis ben voyons,
t'as appelé ici,
quoi, cette affaire-là?
Au radio?
Ouais, il nous avait écrit, je pense. Il avait écrit à Myriam. Myriam Segal était beaucoup dans les reportages, ces affaires-là, les enquêtes. Fait que elle m'avait fait faire ça. Puis, comme de fait, là, fais une demande d'accès au 911 pour avoir le tape de l'appel du monsieur. C'est compliqué parce que ça prend des autorisations. Puis ça me prenait des photocopies des cartes d'identité du gars. T'sais. Bon, c'était très compliqué. Mais j'ai fini par les avoir. Puis, comme de. Au 911, il l'envoyait pas chier. Mais la répartitrice avait vraiment mal fait sa job. Elle l'avait, entre guillemets, pas pris au sérieux. Parce que, puis d'un sens, je la comprends, même si je l'excuse pas, parce que tu dois tellement recevoir d'appels de « Hey, moi, il y a du bruit dans la rue. » Puis, tu sais, à un moment donné, le monde, au 911, t'as juste le goût de faire « Ben oui, c'est beau. » Mais la fille, là, était prise dans un abribus, dans la tempête du siècle. Les routes étaient toutes fermées. Il aurait fallu y aller chercher en skidoo. Puis, il n'y avait pas de skidoo, le monsieur. Il n'est pas capable de sortir de son driveway. Il n'y a plus un taxi, plus un autobus. Il n'y avait plus rien. Les policiers se promenaient en skidoo dans les rues.
C'est la nuit où il y avait une voiture qui était restée ensevelie, puis des gens qui étaient décédés dans le coin de Montmagny.
Dans Bellechasse.
Hein? En Bellechasse. Vers l'Est.
C'est exactement cette fois-là.
Je me souviens bien.
Tu sais? Puis donc, c'est la preuve, justement, que ça, c'était sérieux, là. Puis le premier appel, la madame a dit, « Ben là, monsieur, là, restez poli avec moi, puis je peux rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien qu'on peut faire, là. C'est ça. » Fait que là, le monsieur était venu en sacrement. Sûrement, c'est sa petite fille de. C'est sa fille de 16-17 ans qui revient travailler à minuit, 1h du matin du cinéma. Je pense qu'elle travaille au IMAX, un enfant de même, tu sais. Puis finalement, le monsieur, il rappelle, puis là, c'est un autre répartiteur le jour et la nuit. Mm. Le deuxième répartiteur, il dit, oui, monsieur, gardez votre calme, il n'y a pas de problème, on va vous aider. Gardez la ligne. Il appelle au centre d'achat pour le gardien de sécurité. Il dit au gardien de sécurité, débarrez à la porte, il y a des jeunes qui vont venir vous voir, vous les laissez rentrer, c'est la police, puis machin. Après ça, il reprend avec le père de la petite fille. Il dit, regardez, monsieur, là, vous allez dire à votre fille de se rendre à tel endroit, vous rappeler après, vous demander de parler à telle personne. Tu sais, pour être sûr que tout soit organisé, soit orchestré, tout se soit passé comme il faut, c'était un exemple d'intervention, le deuxième appel. Puis le premier, c'était une honte d'intervention. Fait que c'est dire à quel point c'est tough l'être répartiteur. Moi, genre, écoute, je serais probablement un mauvais répartiteur.
Juste le sang-froid, là, c'est... Parce que c'est vrai, et puis à un moment donné, on avait parlé à un répartiteur dans le show du matin, puis il nous avait dit et écrit 10 interventions innocentes pour lesquelles les gens appellent. Puis là-dedans, je me rappelle, il y avait « Il est quelle heure? » Donc, vous voyez...
Oui.
C'est des appels et des appels de niaiserie par là.
Excellente question, ceci.
Excuse-moi, Pascal, un instant, parce que par texto, on nous dit Bissonnette, ils ne l'ont pas présenté, mais ça a été joué plusieurs fois.
C'est
renversant.
C'est renversant.
Ouais. Mais le répartiteur a gagné un prix aussi.
Mais il était bon en tabarouette.
On l'a honoré.
Très solide.
Oui.
On l'a honoré. Autre nouvelle, il y a le gymnaste Thierry Pellerin qui fait face à de nouvelles accusations en nature sexuelle. C'est les informations de Radio-Canada qui disent que l'athlète de Lévis va comparaître au mois de janvier pour répondre cette fois-ci des accusations de voyeurisme, de production et de possession de pornographie juvénile. Je vous rappelle qu'il a été arrêté en juillet dernier avant d'être accusé de leurre informatique et d'incitation à des contacts sexuels. Ça concernait deux plaignants d'âge mineur. Là, le nouveau chef d'accusation de voyeurisme fait état d'un enregistrement visuel qui implique plusieurs garçons sans toutefois préciser le nombre. Alors, Thierry Pellerin a 23 ans. Il est en liberté pendant le processus judiciaire. Et avant son arrestation en juillet dernier, il était un espoir canadien en vue des prochains Jeux olympiques. Voilà que tout vient de tourner avec une toute autre manière de voir sa vie maintenant. Le service de police de la Ville de Québec a procédé à l'arrestation d'un homme de 32 ans pour voie de fait grave sur un bébé de 11 semaines. L'arrestation, c'est le résultat d'une enquête criminelle. Ça a été initié en octobre octobre 2019. Et là, l'homme va comparaître aujourd'hui au Palais de justice de Québec. Et le SPVQ invite toute autre possible victime à entrer en contact avec les autorités. Mais j'ai pas plus d'informations pour vous qu'un homme de 32 ans qui fait face justement à des accusations de voies de fait graves sur un bébé de 11 semaines. Nouveau lieu d'éclosion à Québec concernant la COVID-19. C'est la résidence privée pour aînés, Manoir Sully, c'est dans Vanier. Au total, 69 résidents qui sont infectés. Il y a eu un dépistage massif dimanche dernier pour les résidents et les employés. Le plus récent bilan fait aussi état de 5 employés de la résidence qui ont été infectés. Bonne nouvelle ici à Québec, on est dans les essais cliniques. 65 personnes du secteur de Québec qui seront vaccinées au cours des prochains jours.
Ah, ils ne m'ont pas appelé?
Non, ils ne t'ont pas appelé, mon cher. Maudit. Et c'est dans le cadre des essais cliniques qui est réalisé par la firme québécoise Medicago. Au total, il va y avoir 600 personnes à l'échelle du pays qui seront appelées à contribuer à ces essais-là. Et parlant de vaccins, je réitère que Justin Trudeau a rappelé hier soir que l'éventuel vaccin contre la COVID-19 sera gratuit et accessible à tous.
Mais Santé Canada, ils sont... J'allais dire pointilleux, mais ils sont plus sévères qu'ailleurs dans le monde.
Hein. Par rapport aux essais cliniques
oui,
et aux approbations. Par rapport
aux vaccins, par rapport aux médicaments, souvent.
Oui. Hein, c'est une bonne question.
Il y a des médicaments qui sont pas ici en vente libre, mais qui le sont, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs. Santé Canada, ils ont des critères très, très sévères. Parce que j'entendais hier le docteur Béliveau qui disait que la qualité des vaccins, c'est ce qui le surprend le plus. Les vaccins qui sont en train de sortir un peu partout dans le monde, là, ils sont de très bonne qualité. Lui est très encouragé, le Dr Béliveau.
Et c'est encourageant pour nous aussi.
Oui, absolument. Pense. Les médecins, en général, sont encouragés.
Sont
vraiment,
on
peut avoir espoir là, présentement, là, pour tout ce qui se passe. Là.
On va pouvoir poser nos questions, d'ailleurs, concernant le vaccin. Je suis content, parce que il y a Benoît Massé, qui est prof à l'École de santé publique, Université de Montréal, épidémiologiste, reconnu. Vous l'avez probablement vu à TV aussi, à gauche, à droite, il a accordé des entrevues. Vers 8h, 8h10, là, je voulais quelqu'un pour nous parler de vaccin. Parce que c'est probablement l'affaire qui nous donne le plus espoir ces temps-ci.
C'est très, très bon présentement.
Oui. Ça fait que, tu sais, là, même, on va être dans le... OK, qui c'est qu'on doit vacciner en premier? On peut s'attendre à recevoir les vaccins à partir de quand? On va-tu en avoir assez? Bref, évidemment, là, on n'est pas dans le secret des dieux. Monsieur Massé, c'est pas tout. Mais si vous avez des questions aussi concernant le vaccin, vous nous les enverrez, puis je les poserai à M. Massé vers 8h10 à peu près.
Il y a 97 % des personnes décédées de la COVID-19 durant la première vague au Québec qui avaient une condition médicale préexistante. C'est ce qu'on a appris hier. C'est des informations, des statistiques publiées par l'Institut international de la santé publique du Québec.
Ce qu'on appelle la comorbidité.
La comorbidité, effectivement. Donc, chez les personnes hospitalisées, c'est 87 % de ces gens-là qui en fait avaient une condition médicale préexistante. 55 % aussi parmi les cas confirmés de la maladie. Alors vraiment, c'est une statistique qui vient confirmer ce qu'on croyait, vient confirmer ce que plusieurs médecins pensaient aussi.
Oui, oui.
Et sans affirmer, ne pouvaient pas l'affirmer, mais maintenant avec les études qui ont été faites, les statistiques amassées.
C'est pas moins triste, là?
Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, on est capable au moins, par contre, de viser les gens qui sont plus à risque de la COVID-19 d'en mourir. Nouvelle mesure de magasinage, vous avez entendu comme nous hier que ce sera appliqué dès demain. Donc, en gros, la capacité d'accueil sera limitée en fonction de la grandeur de chaque magasin. On va devoir afficher le nombre maximum de clients qui peuvent entrer dans le commerce et aussi avoir l'obligation de faire respecter la distanciation physique et le port du masque. Il y a des restaurateurs qui n'étaient pas contents hier que leur commerce soit fermé, alors ils souhaitaient une réouverture de leur commerce avant les fêtes. Ils ont fait une manifestation devant l'Assemblée nationale.
Ça, d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de... Moi-même, des fois, je me suis donné au jeu des comparaisons. T'sais, on fait ça depuis le début de la pandémie. Là. Si ça, c'est ouvert, pourquoi pas ça? Si ça, c'est fermé, pourquoi pas ça? Puis je réalise, puis ça va, qu'il existe à peu près aucune comparaison possible. À moins, mettons, que tu dises, OK, on rouvre la moitié des restos, mais pas l'autre moitié. Bon, là, on... Et encore, on pourrait dire, oui, mais voici les paramètres. On a permis l'ouverture de ceux-ci parce que tant de places assises, puis telle superficie. Mais le point, ça demeure que c'est pas mal toujours boiteux de faire des comparaisons. Celle que j'ai vue avait en lien avec la manif des restaurateurs d'hier, c'est les centres d'achat sont ouverts, mais pas les restos. Mais, puis en passant, je veux le préciser, on a fait des entrevues autant cette semaine dans l'émission pendant les vacances de Steph, mais nous autres la fin de semaine, on parle de restaurants, on plug les restaurants, on fait des entrevues avec des restaurateurs presque à chaque semaine, là, tu sais. On encourage les restos, on répète le message tout le temps, mais tu peux pas comparer les restos et les centres d'achat. C'est pas la même affaire, pas en tout. Les gens dans les centres d'achat sont mobiles. S'il y a des fils, ben là, ça peut poser problème, fait que t'éloignes les gens. Le service est pas le même. Aller acheter des cadeaux de Noël ou magasiner ou autre. Les impacts économiques de fermer les commerces versus permettre la vente en ligne. Tu sais, les comparaisons se peuvent pas, là. T'sais, c'est comme aussi les patinoires de hockey. J'ai vu des gens qui disaient, parce que pis c'est en fonction du moment où les nouvelles sortent, là, mais j'ai vu des gens qui disaient, ah ouais, OK, fait que les patinoires extérieures sont fermées, mais les jeux d'évasion sont ouverts. Celui-là, je le comprends pas. Ben, moi, j'ai encore de la misère à comprendre pourquoi les patinoires extérieures seront pas ouvertes.
Les patinoires, c'est dur à saisir.
T'sais, pourquoi il y aura pas de hockey? Je suis pas sûr de comprendre. Mais c'est quoi le rapport avec les jeux d'évasion? C'est pas les mêmes. S'il y en a un qui est en dedans, l'autre qui est dehors. Il y en a un qui rentre beaucoup de monde, l'autre qui a un maximum facile à calculer. Il y a tellement d'affaires différentes que tu peux pas vraiment le... Puis pour les restos, là où je comprends par contre les restaurateurs, il y a deux affaires principalement. La première, c'est que, tu sais, avec tout le monde en arrache, mais là, depuis le temps où dure la pandémie, chaque semaine qui passe est une semaine où tu perds des soldats. Ça fait qu'à un moment donné, eux autres, ils vont atteindre l'espèce de point de non-retour où, tu sais, il va y avoir de plus en plus de fermetures. Et l'autre affaire, c'est qu'on n'a jamais su vraiment pourquoi ils fermaient les restos. On nous a jamais dit, voici les données scientifiques qui nous démontrent qu'il faut fermer les restos. Ce qu'on nous a dit, c'est, les restos ne sont pas des lieux d'éclosion, mais on les ferme parce qu'on veut restreindre le nombre de contacts entre les personnes.
Mais ça, c'était un argument hier, là, parce qu'on a eu le docteur Horacio Arruda ici en ondes, là, il était en entrevue avec les gars du midi, puis il a dit, ben, il n'y a pas de données probantes sur la raison du pourquoi on a fermé les restaurants. Puis hier, ils sont revenus avec cet argument-là, en prétextant qu'il n'y avait aucune preuve scientifique là, qui justifiait la fermeture des restos. Mais c'est sûr qu'il y a eu des analyses, puis qu'ils ont essayé de voir s'il y avait des risques. Là.
Ça crée l'occasion, là, c'est la gestion du risque. Tu sais, je dis pas que c'est totalement justifié ou pas, mais c'est parce qu'à un moment donné, ils ont pris des décisions sans effectivement avoir de données probantes, mais il n'existait pas ces données-là. Je veux dire,
c'est pas tout à fait vrai, Pierre, parce qu'on était des restos tout l'été.
Oui, mais alors qu'il y avait le virus n'était pas en circulation tant que ça cet été. Là. Les circonstances sont totalement différentes. Là.
Ben oui, mais regarde, non, là. Moi, je te ramène au moment où il a décidé de refermer les restos.
Ouais.
Mais je te dis pas, il n'y aurait pas eu d'éclosion dans les restos. En fait, moi, le seul constat que je fais, c'est bon, il y a des restaurateurs qui font une manif, ils sont en maudit. Mm-hmm. Puis je comprends un peu parce qu'on a dit on ferme les restos, même s'il n'y a eu aucune éclosion, puis qu'il n'y a rien qui nous démontre que c'est un lieu d'éclosion. Alors que les lieux de travail le sont, les écoles le sont.
Dans d'autres pays, quand même, Horacio Arruda en a parlé plusieurs fois, que dans d'autres pays, on avait constaté que les bars, les restos, c'était des lieux de socialisation, la garde tombait à cause de l'alcool, la proximité, etc., etc. Je dis pas que c'est fantastique, tout le monde est vraiment fâché, mais de dire qu'il n'y a pas d'argument scientifique, c'est pas vrai. Tu peux observer aussi la situation puis l'analyser, non?
Mais les observations de cet été démontrent qu'il n'y a pas d'éclosion dans
l'air. Le virus circulait beaucoup moins cet été.
C'est ça, mais il circulait beaucoup moins parce que les écoles étaient fermées, les gens n'étaient pas au travail, ce qui sont des
fait
lieux
les écoles
où
ou
le
les
virus
restos?
Circule beaucoup.
Fait que les écoles
pas
ou les
restos,
c'est ça la question qu'on se pose.
Non,
pas du tout. Facile à répondre.
Non, mais c'est pour ça que je te dis, toutes les comparaisons sont boiteuses. Ouais. On ne peut pas dire ça c'est ouvert, ça c'est fermé. T'sais,
voilà, et je pense que tu as une bonne approche. Tout est un cas individuel.
C'est ça. Je dis pas il faut ouvrir les restos absolument. C'est pas ça du tout. Je veux, comme tout le monde, que le virus se finisse au plus sacrant.
Puis je dis pas qu'il faut garder fermé automatiquement non plus, qu'on se comprenne bien.
Non, c'est ça. C'est juste que là, il y a des gens de qui c'est le travail d'une vie, les investissements financiers d'une vie. Tu sais, et eux autres, ils regardent leur business mourir à petit feu, puis ils disent, on m'a dit, il n'y a pas de données scientifiques qui justifient la décision. Ben là, je vais aller me battre. C'est plutôt ça, moi, que je comprends. C'est ce sentiment-là que je comprends.
Ah ouais.
Mais remarque, la manifestation d'hier tombe le même jour où on annonce 1500 nouveaux cas, 43 décès de plus, qui est le pire bilan des dernières semaines, bilan des derniers mois.
C'est comme de dire, ça sert à rien le masque. Voyez, il y a des cas. Non, ben, à l'évidence, le masque et les mesures font qu'il y a juste 1500 cas actuellement, que ce serait probablement pire si c'était pas le cas. Mais sais-tu quoi? Ça encore, c'est de l'observation puis c'est de l'analyse, mais on n'a pas de données qui nous le prouvent, mais on peut le penser. T'sais, c'est la démarche scientifique, c'est pas juste des données, c'est de l'observation aussi, surtout quand t'as pas de données disponibles.
Ça fait que bref, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est
d'espérer.
Restaurateur, lâchez pas.
Ouais.
On va finir par être vacciné. Puis
ils l'ont dit,
les autres, qu'on va revenir vous voir.
Qu'on va revenir vous voir.
Oui. Moi, là, aller m'accoter au bord d'un resto avec une bonne pinte, là. Oh, monsieur, que oui, ça.
Ça me parle.
Je vais, je pense que je prendrai une pinte en déjeunant, moi aussi. Il faut pas de trouble avec ça. Deux œufs tournés, pinte de bière, là.
Ça, hein?
Ça me dérange pas. Nouveau. Pas. Non,
c'est ça. Ah, t'as déjà vu ça, Pascal, avec vous?
Ça me dérange pas du tout.
On parlait des tests rapides de dépistage récemment, parce que depuis octobre, on en a en circulation ici au Québec.
Ça existe, là.
Ça a été acheté par Ottawa. Sont où? Très
bonne question.
Hein? On a des nouvelles ce matin de ces tests de dépistage rapide. C'est dans le Devoir. En fait, on dit que le Saguenay-Lac-Saint-Jean va avoir ses tests de dépistage rapide de la COVID-19 dès demain. Il y a d'autres régions comme Montréal et la Capitale-Nationale, nous, qui vont pouvoir en bénéficier bientôt. Donc, le Québec a un peu plus de 1,2 milliard de tests qui vont permettre de déterminer en 15 minutes au moins si une personne est infectée par le coronavirus. Alors, c'est la nouvelle que j'avais à vous donner dans les tests de dépistage.
1,2 milliard?
Oui.
D'abord, tu ranges ça où? C'est gros comment?
Dans tes poches?
Oui. C'est ça,
une autre nouvelle. Sont où les préposés en CHSLD? Les nouveaux préposés en CHSLD. On entendait que plusieurs désertaient la profession après seulement quelques mois d'essai, là, après la formation. Est-ce que c'est la majorité? Mais là, on dit c'est que la très grande majorité des nouveaux préposés formés dans les derniers mois pour venir en aide au CHSLD restent en place après deux mois au travail. Ce sont les données du Devoir. On dit qu'en Outaouais et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le taux de rétention approche 100%. Quand même un bon taux. Là où c'est plus difficile, c'est au CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal. Là, on constate un peu plus de départ, mais quand même 88% des nouvelles recrues sont toujours en poste. Et les responsables en santé disent qu'ils sont surpris du taux de rétention aussi élevé de rétention. Et on rappelle qu'à moins d'un an de service, il y a les nouveaux préposés qui doivent rembourser les 9 000 $ octroyés par Québec pour leur formation. Alors peut-être que ça fait en sorte qu'il y en a certains qui restent et qui donnent un bon taux de rétention. Ça, c'est une histoire qui est sortie dans la presse. Il y a le service de police de la ville de Québec qui dit avoir les mains liées pour un article du Code criminel qui empêche d'intervenir dans une église de Montréal. Une église de Montréal qui ne respecte pas les règles sanitaires. Et il s'agit d'un article qui interdit à quiconque de gêner ou d'arrêter un ministre du culte. Donc, un célébrant de service religieux quelconque, que ce soit une secte ou que ce soit quelqu'un qui est un peu comme moi, j'ai juste Raël en tête pour vous faire une
histoire
courte.
Un curé, n'importe quoi.
Un prêtre. Mettez ce que vous voulez.
Un célébrant.
Mais là, depuis le début novembre, il y a cette église-là, l'église Nouvelle Création dans le quartier Saint-Michel, qui rassemble de nombreux leaders anti-masques. Et on souhaiterait faire quelque chose, mais on a les mains liées vu la loi. Et on dit que l'état-major a demandé à la direction de la santé publique de modifier le décret sanitaire pour qu'il tienne compte du risque juridique qui est posé par cet article-là du Code criminel. Mais en ce moment, on peut même pas intervenir pour des gens qui se rassemblent et qui sont contre les mesures sanitaires.
Quand tu dis « i »,
c'est pas ce matin qu'on va régler le cas des groupes religieux, là, mais groupes religieux avec un grand G. Tous les groupes religieux. Ils m'énervent! Il n'y a pas de raison que tu aies des passes droits quand j'étais un
totalement d'accord.
Même sur le plan fiscal.
C'est
sérieux, là.
C'est plus 2020. C'est vraiment pas 2020 comme approche.
On a un ministère du patrimoine, là. On a de l'argent dans le budget de l'État, là, pour le patrimoine, là. Des églises qui tombent, là, les réparer parce que historiquement, la valeur historique, la valeur architecturale, fantastique. C'est tout. Mais si tu veux pratiquer ta religion, vas-y, là. 100% liberté.
Ah oui.
Que tu sois catholique, musulman, juif, bouddhiste, nouvelle génération de gracieistes, là, comment t'appelais ça? La nouvelle église du nouveau genre, là.
Canadien de Montréal, il n'y a pas de problème.
Toute la gamme.
La religion.
Montréaliste.
Allez-y.
Tu fais ce que tu veux, j'ai pas de problème. Mais on va pas donner de break de taxes. Puis si la police, faut qu'elle intervienne chez vous, avant d'intervenir...
Ça n'a pas d'allure. C'est un choix.
Sérieux?
C'est un choix, la religion. Comme le Canadien, on rit bien, là. Mais c'est la même chose. Tu choisis, t'as ça en dedans de toi, parfait, mais tu le choisis pareil. Ça n'a pas d'allure, t'as une exemption pour ça. C'est ridicule. Hey, les avez-vous vu les images dont Pascal parle? Il y a quelques images qui ont été diffusées sur...
Ah oui, ils prennent des photos.
Hey, ils sont là avec pas de masque. Pas de distanciation, rien. Tu sais, mais clairement.
Mais quand
là,
tu dis leader anti-masque.
Oui, oui, les cossettes Trudel et autres sont là, avec des photos de groupe, là, puis tout ça, là.
C'est pas des religieux qui. Des gens qui, au départ, sont religieux, puis le masque, ça va contre leur religion.
Mais je pense que oui,
c'est
ils sont mêlés.
Des gens qui
sont
contre le masque, qui en font une religion pour avoir la paix.
Mais les leaders bizarres dont on parle, ils se sont joints à des communautés religieuses qui avaient les mêmes idées qu'eux autres aussi, là, tu sais. Mais ça n'a pas d'allure. Tu peux pas avoir une exemption sur la base d'une croyance. C'est complètement ridicule.
C'est ce qui se passe en ce moment.
Alors, c'est ça que je veux dire par « il m'énerve ». Il m'énerve, les religions, il m'énerve.
Je termine avec deux choses. La première, c'est Québec qui a démis ses fonctions, le PDG du 6 de la Naudière. C'est dans l'histoire de Joyce Echaquan. En fait, c'est Daniel Castonguay qui défrait la manchette depuis le décès de cette femme-là, le 28 septembre dernier. Il y a eu une pluie d'insultes racistes à l'hôpital de Joliette. Vous aviez vu les vidéos, en fait. Et le 6 de la Naudière est désormais dirigé de façon intérimaire. C'est une femme, Caroline Barbier, qui conserve ses fonctions actuelles de PDG du CHU de Sainte-Justine en même temps. Mais là, le ministère de la Santé et des Services sociaux avait envoyé une observatrice dans l'établissement pour faire la lumière sur les circonstances entourant cette mort-là. Et on a choisi de démettre de ses fonctions Daniel Castonguay. Et la dernière nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est 6 maires des plus grandes villes du Québec qui se joignent...
6 maires, ça c'est pas la sœur de Mesmer?
Non, non, oh, pas du tout.
Balaye.
Et eux se joignent au gouvernement Legault pour réclamer une réforme sur la charte de la langue française. En fait, bon, c'est le journal de Québec-Montréal qui souligne que la pression s'accentue sur Justin Trudeau. On veut permettre l'application de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale et à l'initiative du ministre Simon Jolin-Barrette, les maires de Montréal, Valérie Plante et Régis Labeaume de Québec ont entre autres co-signé une lettre ouverte. Enfin, on exige que la charte de la langue française qui fait du français la langue normale de travail s'applique aux entreprises sous législation fédérale. Alors, quand même, quelques 240 000 personnes qui travaillent au sein d'entreprises de compétences fédérales en 2016 au Québec.
Merci, thank you, Ren P, Queen P.
Thank you.
Ça me fait plaisir.
Bonjour, Aïe.
Il y a des gens qui doutaient sur le nombre de tests,
ouais,
là, mais je leur envoie l'article en question.
Oui, mais ils se sont trompés dans l'article du Devoir.
Oh, tu l'as pas?
Ouais, ouais.
Parce que c'est leur nouvelle à
je
eux.
Je sais, je sais. Mais c'est vraiment 1,2 million
parce
dans tous
peut,
les autres textes.
On peut douter, là. Oui, ouais, c'est
ben,
sûr.
1,2 million. 1,2 milliard.
C'est énorme.
Test,
mais il y a une erreur dans le Devoir.
C'est leur nouvelle. En tout cas, on va leur envoyer un petit message.
1,2 million, finalement.
Ouais, j'ai plusieurs textes là, qui parlent d'1,2 million dans les derniers jours, mais le Devoir a marqué 1,2 milliard. Tu as totalement raison, Pascal. Pis...
Tu peux tester 20% de la planète avec ça. Ouais.
C'est juste un...
1,2 milliard.
Mais il y a quelqu'un d'intelligent
pas même bonne
qui a fait... ouais, mais quand tu l'écris quand même... en tout cas, on va leur dire, mais il y a quelqu'un d'intelligent qui a dit 1,2 milliard de tests, c'est quand même 100 000 tests par jour pendant 12 000 jours ou environ 30 ans. Mais semble que ça fait pas de sens. Mais ça aurait été encourageant.
Mais d'un coup, mieux vaut être prévoyant que mal accompagné.
Parlant de coup,
c'est pas exactement
ça. Oui, monsieur. Envoyez donc.
Parlant de coup, tu te prends-tu pour un politicien, toi, depuis de la semaine?
De coup.
Les politiciens, ce qu'ils font en général dans les conférences de presse, ils font deux choses. Ils annoncent quelque chose, puis ils donnent des coups dans leur micro.
Oui, mais c'est ça, là. C'est parce que je mange en même temps. Je m'en piffe. Moi, je vous rappelle que j'ai un défi qui est de clencher les brownies.
Ça va bien, jusqu'à date. Gâteaux, là. Tu vas réussir, je crois.
Ben là, à date, je n'ai mangé rien qu'un morceau pour adulte. Il m'en reste deux.
Mais il te reste encore deux heures.
Ça, c'est arrangé là, c'est un morceau.
Il te reste deux heures et demie. Puis plus on avance dans l'émission, normalement, plus l'appétit grandit. À moins que tu manges à toutes les cinq minutes.
Ça, c'est inversement proportionnel à la courbe. Plus tu manges, moins t'as faim.
Mais j'ai des chips si t'as besoin, des petites barres aussi.
J'avais des doutes au début, j'ai confiance que tu vas finir le plat.
J'aimerais bien que ce soit la même chose dans les fruits, peut-être.
Mais quoi?
Hein? Demain, on y va avec les fruits, Paul. Un beau gros plat de fruits.
Non, les fruits, ça, c'est pas avant le mois de mars, je pense.
Si on te donne le choix, ce serait quel fruit tu voudrais dans ton plat? La fraise?
La banane pour aller avec le chocolat. Ben là, c'est-à-dire qu'il y a aussi des brownies.
Non.
Oh,
demain, c'est de la portion fruits.
Mais laissez-moi.
Des raisins?
Manger ma banane.
Fruits. Je suis pas un mangeur de fruits. Banane.
Banane.
Mais je te dis ça avec.
Tu fonctionnes au banane système, toi?
Ouais, je suis là comme. Me dis potassium.
Potassium.
Il doit avoir du calcium un peu là-dedans aussi. Puis c'est bon pour les yeux, ça doit.
Un petit peu de singe dans toi, finalement.
Ça doit.
J'irais babouin.